France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Ne me brusquez pas, ne me demandez pas tous les quatre matins ce que je vais faire au deuxième tour. Qui n'a pas eu cette conversation en famille ou avec des amis quand on a fait le choix de voter Jean-Luc Mélenchon et que tout le monde vient vous taper sur l'épaule? C'est la première conversation post-premier tour. On a beau avoir attendu quelques jours pour vous poser la question au téléphone sonne, il y a des chances que pour la digestion, ce ne soit pas tout à fait au point encore pour tout le monde. Pour certains d'entre vous, c'est très clair. Pour d'autres, c'est le piège refermé dès 20h. Dimanche. Ce qui rend les choses un petit peu plus compliquées à lire, c'est que dans les 22% de Jean-Luc Mélenchon, il y a des transfuges d'une autre gauche qui ont voulu faire nombre, ceux du vote calcul plus que du vote adhésion. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui, au dernier sondage Ipsos pour nos amis de France Info, peut-être ça qui montre que le report des mélenchonistes vers Macron est passé à 37%, vers Marine Le Pen à 18%. Dans la lettre à ses soutiens, Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, même s'il donne toujours zéro consigne de vote, prend soin en tout cas de différencier les deux candidats. On verra si ça change quelque chose auprès des militants. Ces électeurs-là, en tout cas, ont besoin de réfléchir. Ils sont les plus dragués de la Ve République, avec peut-être les abstentionnistes. C'est le téléphone sonne de ce soir et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Karine, vous êtes dans l'Ardèche, c'est à vous. Bonsoir et bienvenue.
Allô, bonsoir. Eh bien, écoutez, merci de prendre ma question. Voilà, moi, je suis j'ai voté France Insoumise. Je suis militante France Insoumise depuis longtemps, donc j'ai voté par conviction. Et en fait, là, je suis devant un dilemme, d'autant plus que donc je suis plutôt la génération Coluche, la génération touche pas à mon pote. Donc effectivement, j'ai pas trop d'accroche avec le FN. Par contre, là, on vient de lutter contre Monsieur Macron pendant 4 ans. Et je veux dire, on va pas nous faire oublier qu'il a sa police à éborgner, blessé, qu'il a traité le peuple comme on n'a jamais traité le peuple depuis longtemps. Et voilà, donc là je suis devant un dilemme.
Et est-ce que vous... Je sais pas, Karine, est-ce que vous vous dites j'ai encore plusieurs jours, je peux décider aussi jusqu'à dimanche. Est-ce que c'est cet acabit-là où vous vous dites de toute façon j'aurais pris une décision, je l'aurais prise demain ou après-demain et ce sera irrévocable?
Non, je pense que jusqu'au dernier moment, jusque devant l'urne, je vais me poser la question. Est-ce que je vote blanc ou est-ce que je vote contre Macron? Voilà. Donc je vais me poser la question effectivement jusqu'au bout quoi.
Eh ben, écoutez.
Je réfléchis.
Je vois, et vous n'êtes pas la seule dans votre cas, au milieu de ces 22%-là, et c'est ça qui est intéressant, évidemment, en ce moment, pour en discuter ensemble. Frédéric Savy, qui est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, professeur de sciences politiques à Paris, hein, Panthéon-Sorbonne. Antoine Bristiel est avec nous aussi. Bonsoir, Antoine. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'Observatoire de l'Opinion à la Fondation Jean Jaurès. Et puis, Yael Gauze, du service politique de France Inter, que je salue également. Est-ce qu'on peut la faire, la part? C'est à vous que je vais poser la question, Antoine Bristiel, mais, est-ce qu'on peut la faire, la part, dans ces 22% entre les, pardon de le dire comme ça pour Karine, les vrais mélenchonistes, ceux qui ont un vote transfuge? Je dis ça parce que ça change tout pour les reports, en fait. Donc, est-ce qu'on sait la faire? Le noyau dur, au fond, du vote Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'on sait lui donner un pourcentage?
On peut éventuellement supposer que le noyau dur du vote Jean-Luc Mélenchon, pardon, c'est ce qu'il y avait au début de la campagne, donc plutôt autour de 10%, et qu'on a eu effectivement... peut-être le double qui s'est greffé pendant la campagne. Après, dans cette histoire de vote de conviction et de vote stratégique, c'est aussi les institutions qui sont faites de cette manière-là. Et on peut voir aussi que chez Valérie Pécresse, enfin, le fait qu'elle fasse un aussi petit score, c'est lié au fait qu'il y a eu un vote stratégique vers Emmanuel Macron. Pareil dans le petit score d'Éric Zemmour vers Marine Le Pen. Donc, certes, c'est une problématique qui se pose dans l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, mais qui est assez liée quand même à cette configuration institutionnelle actuelle.
10, c'est beaucoup, Frédéric Savicky, ou non, effectivement, oui, c'est à peu près ça. Ça fait une grosse différence quand même.
Oui, c'est beaucoup, mais d'une certaine façon, c'était déjà le cas en 2017. Hein. On avait aussi vu ce phénomène. Je vous rappelle qu'au début de la campagne présidentielle de 2017, Benoît Hamon était nettement devant, enfin 12-13% Mélenchon. Et donc, la capacité effectivement de Jean-Luc Mélenchon par son verbe, mais aussi par la capacité de mobiliser des militants, comme la personne qui vient de s'exprimer en utilisant beaucoup les réseaux sociaux, fait qu'il arrive effectivement à supplanter et à apparaître comme le candidat le plus, on pourrait dire, ajusté à la personnalisation de l'élection présidentielle. Alors après, là, ce qu'on peut quand même remarquer, c'est que la déclaration de Jean-Luc Mélenchon, aussi bien dimanche que celle qu'il vient de faire, évidemment, va plutôt dans le sens d'une position où il ne tranche pas véritablement, puisqu'il appelle à ne pas voter pour Marine Le Pen, mais il ne condamne pas, il n'incite pas les abstentionnistes ou ceux qui seraient tentés par le vote blanc de ne pas le faire. Et du coup, évidemment, le dilemme est encore plus grand pour les électeurs qui, disons, le suivent de façon la plus fidèle.
Il ne tranche pas, Hidalgo, c'est vrai, mais en même temps, il y a cette phrase, j'ai dit, l'un et l'autre ne sont pas équivalents, etc. Enfin, là, il y a une manière de dire, attention, c'est pas bonnet blanc, blanc bonnet, mais fiez-vous de ça. Moi, j'ai lu ça, en tout cas, dans cette déclaration-là.
La balance penche assez sérieusement du côté d'Emmanuel Macron, parce que cette lettre, elle date de ce matin, c'est la consultation pour le second tour, dont on aura les résultats auprès des 300 000 adhérents ce week-end, samedi, a priori. Et le choix qu'il donne, c'est ou voter Macron, ou voter blanc ou nul, ou s'abstenir. Mais il n'y a pas le voter contre Emmanuel Macron en mettant un bulletin Marine Le Pen. Il n'y a pas cette option-là. Elle n'est même pas proposée aux adhérents de la France Insoumise. L'autre remarque que je voulais faire...
Ce serait contre-culture, pardon, parce que je vois Frédéric Savicky qui fait « Bah oui, on pourrait
alors
pas... »
Alors là, imaginez Jean-Luc Mélenchon appelé à voter Marine Le Pen, ça serait effectivement assez inconcevable.
Mais il a ce mot-là aussi. Le Pen ajoute au projet de maltraitance sociale qu'il partage avec Macron un ferment dangereux d'exclusion ethnique et religieuse. Un peuple peut être détruit par ce type de division.
C'est là qu'il dit ils ne sont pas équivalents, en fait.
C'est pas égal.
Voilà. Donc, ça change tout, selon vous, que cette phrase-là,
elle peut,
auprès des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de leur choix de...
Elle peut décrocher les transfuges dont vous parliez, Fabienne, c'est-à-dire ceux qui se sont rajoutés au socle originel des Insoumis, qui se sont agrégés au fil des semaines depuis septembre, parce qu'en fait, l'histoire de la gauche dans cette campagne, c'est un parcours du combattant. L'électeur de gauche, il a vécu une primaire verte qui n'a pas servi à grand-chose, puis après, une primaire populaire qui a avorté, une Christiane Taubira qui l'a gagné, mais en fait ne s'est pas présenté et a fini par rallier Jean-Luc Mélenchon. Donc, il y a quand même beaucoup d'agrégation d'électeurs venus de cette gauche déboussolée qui n'avaient pas le choix Mélenchon au départ et qui y sont arrivés à la fin.
Est-ce que vous lisez, Antoine Bristiel, comme un appel du pied dans ce dernier message, un appel du pied qui peut dire attention au calcul quand même, voici ce que peut vouloir dire l'abstention, mathématiquement, voici ce que peut dire une non-abstention.
D'ailleurs, c'est comme ça que c'était compris par certaines personnes qui ont écouté son discours, avec le fait qu'il ait répété justement, pas une voix ne doit aller à Madame Le Pen, pas une voix ne doit aller à Madame Le Pen le jour de l'élection, ça a pu être interprété comme le fait qu'il fallait voter pour Emmanuel Macron. Après, ce qui est certain, c'est que au sein de son électorat, il y a un rejet de Marine Le Pen, mais il y a aussi un rejet très fort d'Emmanuel Macron. Quand on regarde justement la part de la population qui est inquiète par rapport aux différents candidats, sur Emmanuel Macron, dans la population française, c'est 41% des Français qui se disent inquiets, et chez l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, c'est 68%. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un choix qui est cornélien pour une partie de ces électeurs-là, qui certes n'ont pas envie de voir Marine Le Pen au pouvoir, mais qui n'ont pas forcément envie non plus de revoir Emmanuel Macron pendant 5 ans.
Yael Gauss, est-ce que vous diriez que elle a cependant moins de mal dans le contexte aujourd'hui, Marine Le Pen, à aller chercher la jambe gauche en fait, d'une certaine façon, que son adversaire en ce moment?
Elle peut aller chercher cette jambe gauche, appelons-la comme ça, qui a vécu pendant 4 ans, effectivement, une succession de crises. On pense évidemment à la crise des Gilets jaunes. D'ailleurs, les appels du pied sont très clairs depuis hier de sa part, puisque lorsqu'elle a développé son programme pour les institutions, elle fait clairement en sorte de mettre en avant le RIC, le fameux référendum d'initiative citoyenne porté par les Gilets jaunes, mais aussi soutenu par les Insoumis à l'époque de la crise Gilets jaunes. Donc elle, c'est vraiment l'appel au référendum, ce qu'elle appelle la révolution référendaire, quitte à bousculer même la Constitution et à pas forcément en respecter les règles au départ. Thomas Legrand l'a très bien expliqué depuis hier, à savoir que on fait un référendum pour mettre la primauté nationale sur l'Europe, sur le droit européen, mais en utilisant un article de la Constitution qui n'est pas forcément celui qui est adapté. Donc c'est presque un coup de force institutionnel.
Ce que ça veut dire, c'est qu'elle va chercher les purjus.
Elle
va pas chercher les transfuges, elle va vraiment chercher les purjus.
Oui, exactement, elle va chercher les purjus, et puis on le voit aussi sur les questions diplomatiques qui ont été développées longuement aujourd'hui. Marine Le Pen, là aussi, n'est pas du tout dans une ligne de gauche européenne, de gauche atlantiste. Au contraire, c'est vraiment le repli sur une France souverainiste, une France indépendante qui ferait ses propres coopérations indépendamment de l'Europe.
Mais là-dessus, notamment effectivement sur le projet diplomatique qu'elle a présenté aujourd'hui, est-ce qu'elle n'est pas, pour le coup, là dans son couloir, qui était la partie peut-être la plus proche au fond du couloir mélenchoniste, mais là elle se fait pas violence, elle va chercher personne, elle était déjà dans ce couloir-là, non ?
Oui, sauf que ce qui surprend, c'est que Mélenchon lui a évolué au fil de la campagne par rapport à ses positions d'origine sur la Russie et sur Poutine. Là, aujourd'hui, on a quelqu'un qui nous dit, Marine Le Pen, qu'il faut vite un traité de paix entre la Russie et l'Ukraine, et puis ensuite, on ira tranquillement associer l'OTAN et la Russie qui négocieront ensemble de nouveaux rapports de force, de nouvelles négociations. On est quand même très très loin de la réalpolitik du moment, de ce qui se passe sur le terrain en Ukraine.
Et en même temps, est-ce que ça joue vraiment, sincèrement, ce genre d'argument, Frédéric Savicky, c'est pas sur l'international
ça joue l'élection. En tout cas, bon, ça joue sans doute pas sur le noyau de l'électorat de Marine Le Pen, mais on peut quand même pas exclure que parmi les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et a fortiori parmi ceux qui ont voté Jadot ou pour Anne Hidalgo, c'est quand même un élément très très répulsif. C'est-à-dire que l'idée qu'on puisse tout à coup comme ça se mettre à reparler et à renégocier avec les Russes et à passer des accords diplomatiques effectivement devrait normalement jouer contre Marine Le Pen. Et ça pose aussi la question, j'allais dire de manière générale, peut-être pas simplement en relation internationale, mais sa crédibilité, c'est-à-dire qu'elle joue quand même là la capacité au fond à montrer qu'elle est capable demain de présider le Conseil des chefs d'État de l'Union européenne si elle gagne l'élection présidentielle et de se présenter devant les autres en disant bah non, à partir de maintenant on arrête de boycotter la Russie, éventuellement on cesse la livraison d'armes et on va proposer un accord diplomatique sur la base éventuellement d'une partition territoriale. Bon, c'est quand même tout ça que joue aussi Marine Le Pen. C'est de réussir à convaincre des gens qui sont peut-être indécis ou qui ne sont pas forcément radicalement hostiles à ces idées du fait qu'elles puissent endosser les habits présidentiels. Et là, me semble-t-il que sur ce terrain-là, elle s'expose quand même en allant aussi loin et en étant aussi en quelque sorte à rebours de la réalité diplomatique, militaire, de la situation actuelle où on a quand même un président des États-Unis qui accuse le président russe d'organiser un génocide. Donc, vous voyez à quel point c'est à front renversé que d'aller dire bah non, on va pouvoir négocier avec Poutine normalement et puis on va l'intégrer dans l'OTAN. Enfin,
il y a autre chose que j'ai retenu dans ce qu'elle a dit aujourd'hui qui m'a frappé, c'est notamment on ne sortira pas de l'accord de Paris. Vous avez entendu ça peut-être aussi, Antoine Bricel. Est-ce qu'il y a une manière de dire, alors vous qui êtes un transfuge, qui venez peut-être d'un autre horizon qui est un peu plus vert, n'ayez pas peur. Est-ce que c'est aussi comme ça qu'il faut lire ce genre de message ?
Complètement. En fait, on se rend compte quand même que les préoccupations principales des électeurs de gauche et des électeurs mélenchonistes, c'est un, le pouvoir d'achat, et viennent ensuite les questions d'environnement, de santé, de lutte contre les inégalités. Donc, pour Marine Le Pen, tout l'enjeu pour elle, c'est de dire, eh bien, regardez, moi j'ai un programme social, et moi je suis pas contre des politiques environnementales. Alors, sur la question sociale, il y a eu un vrai infléchissement de ses positions depuis notamment toute l'ère Philippot, entre 2012 et 2017, même si à côté de ça, on oublie que sur toutes les questions migratoires, sur toutes les questions d'insécurité, de régalienne, il y a eu par contre aucune inflexion depuis le début des années 2000, hein, c'est ce qu'on a montré dans un rapport récent. Mais après, le côté environnemental, oui, c'est aussi la même stratégie, c'est de pouvoir séduire cet électorat de gauche qui est préoccupé par ces questions.
Allez-y.
Son objectif, c'est pas forcément de séduire ou d'aller accrocher une voix mélenchoniste, c'est de les faire rester à la maison. L'objectif de Marine Le Pen, c'est que l'abstention soit massive dans ces 20 blocs de 22% dont vous parliez, Fabienne, et que du coup, arithmétiquement, ça provoque un score très serré entre Emmanuel Macron et elle.
Une dernière chose, j'allais dire un point de détail. Avant qu'on retourne au standard, la rediabolisation, parce qu'on sent ça, notamment dans l'équipe adverse, est-ce que ça a du sens vraiment? Est-ce que ça peut vraiment marcher? Est-ce que c'est un argument qui fonctionne, ça?
En tout cas, moi, c'est ce que je vais guetter la semaine prochaine dans le débat d'entre-deux-tours. Ce que tout le monde va guetter, c'est comment Emmanuel Macron va essayer d'amener face à elle, justement, tous les éléments qui la font pas à son sens comme une républicaine comme les autres. Mais on a vu ce débat, Édouard Philippe l'a dit ce matin, lui, il croit au Front républicain encore. Emmanuel Macron, il est pas sur cette ligne-là. Il pense que c'est pas en allant la chercher sur des vieux réflexes, Jean-Marie Le Pen, etc., que il fera la différence.
Allez, retour au standard. Retrouvez Tristan. Bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, allez-y.
Je voulais passer un message à Monsieur Macron, qui est que, après avoir joué pendant 5 ans avec l'extrême droite, en ayant fait le pari de se retrouver face à l'extrême droite. Il est en passe de gagner son pari. Le problème, c'est que maintenant, il va falloir donner des gages à l'aile gauche. Il n'a pas donné du tout pendant 5 ans. Je fais souvent l'analogie, je trouve qu'il a joué avec le feu. Maintenant, il y a l'incendie et je trouve ça un peu facile de nous demander à nous d'éteindre le feu quand c'est lui qui joue avec le feu.
Et sauf que s'il y a un incendie derrière, vous direz quoi, Tristan? Vous direz tant pis, c'est pas de ma faute, c'est ça l'idée à la fin.
Ben oui, je me sens vraiment pas si ça devait mal tourner ce dimanche et je me sentirais vraiment pas coupable de ça parce que vraiment c'est. Et c'est pas comme s'il est pris par surprise, ça fait quand même 5 ans, et ça fait 5 ans que les alertes sont données depuis l'aile gauche. À un moment donné, il faut aussi arrêter de nous prendre un peu pour des jambons, et il va falloir un peu respecter aussi tout cet électorat. Mais lui-même se place comme ça, d'ailleurs, il appelle pas du tout à un front républicain, il appelle à un vote d'adhésion. Sauf que pour qu'on puisse adhérer, il va falloir donner des gages. Je peux pas adhérer à ce qu'il a fait depuis 5 ans et ce qu'il promet de faire encore maintenant.
Merci pour ce témoignage, Tristan, qui fait réagir Frédéric Savicky.
Oui, parce que je pense que cette idée que c'est Macron qui aurait fabriqué l'extrême droite et Marine Le Pen doit quand même être tempérée, remisée quand même d'un point de vue plus historique. Je crois que, bon, je ne vais pas revenir sur toute l'histoire du Front National, mais enfin, le Front National s'est imposé comme dans le paysage politique, comme une force très significative depuis les années 90, et ça s'est renforcé au cours des 20 dernières années. Marine Le Pen a quand même s'est qualifiée au deuxième tour, fait 33%. Là où on peut discuter, c'est la stratégie évidemment adoptée par Emmanuel Macron. Au fond, Emmanuel Macron a fait la même stratégie que Nicolas Sarkozy. Il a copié d'une certaine façon la stratégie de Sarkozy qui était de dire on va reprendre un certain nombre de thématiques du Front National, on va faire la loi sur le séparatisme, on va taper symboliquement et pratiquement dur sur la question des réfugiés, sur la République, etc. Donc bon, et là, ce qu'il faut constater, c'est que cette stratégie a effectivement complètement échoué. Bon, alors, ça dédouane absolument pas Emmanuel Macron, mais dans tous les pays, il n'y a pas que la France où il y a une extrême droite forte, la manière dont les partis installés luttent contre l'extrême droite, dès lors qu'elle fait 20-30% des voix, c'est effectivement d'aller adopter des mesures qui essayent de faire baisser cet électorat-là. Alors on peut le regretter, on peut trouver ça moralement condamnable, mais malheureusement, c'est aussi le fonctionnement de la politique. C'est une politique démocratique, il y a 30%, 40% d'électeurs, on l'a vu la dernière fois, 33% quand même en France. Bon, on ne peut pas les ignorer, ils ont des attentes, ce sont des gens qui attendent des mesures de sécuritaires, de protection contre les étrangers, pour les rassurer, etc. Bon, ça, la question, c'est pourquoi ça a raté. Alors, ça a probablement raté, effectivement, parce que Emmanuel Macron ne s'est pas contenté de faire ça. Il a aussi eu une politique qui a été perçue, à raison en bonne partie, effectivement, qu'une politique à destination des riches, d'où ce positionnement. Mais lui reprocher, au fond, d'avoir une politique trop droitière sur les questions d'immigration et de sécurité, bon, c'était le même reproche qu'on pouvait faire à Sarkozy, mais ce n'était pas forcément en soi, effectivement, incompréhensible, compte tenu du fait que il avait au deuxième tour Marine Le Pen, qu'il avait 33%, que c'était son adversaire, et que c'est pas pour la faire monter qu'il est allé sur ce terrain-là, c'était au contraire pour la faire descendre. Donc, pas y faire de procès d'intention à cet égard.
Bonne Bristiel, ce que j'entends dans ce que nous dit Tristan, c'est ne me culpabilisez pas. Ne me culpabilisez pas. Et c'est important dans une opinion, ce genre de phrase-là.
Oui, complètement. En fait, Emmanuel Macron, il a deux stratégies à l'heure actuelle. Soit la première stratégie, c'est de miser sur la posture morale, le front républicain, la diabolisation du Rassemblement National. Et ça, on voit que ça marche pas. En fait, ça marche plus. Le Front Républicain, on en parle depuis 2002. C'est la troisième fois qu'on se retrouve avec un Le Pen au second tour. Et il y a un nombre d'électeurs qu'on a assez de se retrouver dans cette situation-là. Surtout si on leur demande de voter à côté de ça pour quelqu'un qu'ils détestent peut-être pas tout autant, mais en tout cas qu'ils aiment pas beaucoup. Et c'est le cas pour une large partie des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Et donc, du coup, la seconde solution qui lui reste, c'est de pouvoir avoir des réponses politiques concrètes avec des mesures pour essayer justement de faire en sorte que ces électeurs qui comptent s'abstenir ou qui comptaient voter pour Marine Le Pen, ils votent pour lui. Parce que ce que l'on voit, c'est assez intéressant de le regarder, c'est que plus les électeurs de gauche, en particulier de Jean-Luc Mélenchon, pensent que Marine Le Pen peut être présidente, plus ils vont voter pour elle au second tour ou s'abstenir. Ah bon ? Oui, c'est-à-dire que c'est pas une attitude de se dire moi je prends pas mes responsabilités et j'espère quand même que Macron soit élu. Non, dans la réalité, c'est pas on voit les chiffres le montrent assez clairement, ils se disent oui, mais moi je pense qu'elle peut être élue et en fait c'est pour ça que soit je vais m'abstenir, soit je vais voter pour elle, mais je veux pas d'Emmanuel Macron. Donc il faut qu'il ait une réponse politique, il faut qu'il ait des mesures qui puissent parler à cet électorat de gauche et on voit quand même que c'est ce qu'il essaye un petit peu de faire depuis quelques jours.
Ouais, sans grand succès apparemment, mais effectivement la tentative
et surtout on aura le fin mot de l'histoire samedi dans son meeting de Marseille, c'est là qu'il va faire la synthèse de ce qu'il aura récolté au fil de cette semaine d'empathie, entre guillemets, c'est l'expression qui revient en boucle au QG de campagne, il faut qu'il soit empathique dans le dialogue, l'écoute au maximum toute la semaine, et après samedi, il aura fait sa synthèse des gestes qu'il peut faire pour intégrer dans son projet les éléments venus de ses adversaires de gauche. Mmh. Là, on a eu hier un discours, place de la cathédrale, sur l'Europe, très européen, très europhile à Strasbourg, et demain, ce sera Le Havre, chez Édouard Philippe, mais sur un thème écologique, puisque que ce sera une usine qui fabrique des éoliennes en mer.
Ouais, mais ça va pas chercher les électeurs de les 22%, ce genre de discours, ça rassure plutôt une aile droite, non, Yaël ?
Les éoliennes en mer, c'est plutôt pour aller chercher les éventuels sociodémocrates écolos qui étaient allés sur Mélenchon au premier tour. C'est ça l'objectif, mais ça suffit pas, il faudra des mesures, il faudra qu'ils disent des choses plus clairement, mais ça on le jugera samedi en fait, pas avant.
Le problème, c'est qu'il n'est pas cru, c'est-à-dire
et que c'est pour ça que pour l'instant ça fait un peu flop quand même.
Je sais pas si ça va faire flop jusqu'au bout, mais en tout cas évidemment, beaucoup de gens disent, il nous avait déjà fait le coup en 2017 de nous dire qu'il allait faire à la fois une politique équilibrée, on va dire libérale et sociale, et écologique, et puis voilà, il y a eu la Convention citoyenne pour le climat, et puis qui a accouché, peut-être pas d'une souris, mais de deux ou trois souris, et le résultat, c'est que maintenant, qu'il nous dit, après avoir annoncé qu'il allait faire passer la retraite à 65 ans, peut-être...
Ça, c'est un danger sur l'aile droite, par contre, pour le coup, d'avoir changé d'avis.
Oui,
le lendemain, au premier tour.
C'est un danger pour les deux.
Disons que c'est un danger de ne pas être cru, d'être décrédibilisé de tous les côtés. C'est-à-dire, bon, au fond, il est encore en train de nous raconter des cracks, quoi. Bon, alors, ce que je ne pense pas, hein, je m'empresse de le dire, mais en fait, c'est comme ça que c'est perçu. Je pense qu'il ne peut pas faire autrement, effectivement, que de faire ce qu'il dit qu'il fera. Hein, parce que là, pour le coup, je pense qu'en termes de contestation sociale, ça serait absolument énorme, mais néanmoins, il y a ce problème de crédibilité.
Carole est avec nous. Bonsoir, Carole.
Oui, bonsoir.
Vous avez patienté longtemps. Pardon, Carole, on vous écoute.
Oui bonsoir. Merci d'avoir pris mon appel. Donc, en fait, moi, je voulais dire que j'étais déterminée à m'abstenir. Ça rejoint un petit peu ce que les autres auditeurs ont pu dire, hein, mais j'ai voté contre Jean-Marie Le Pen en 2002, pour Chirac, j'ose pas dire pour Chirac. Pareil, en 2017, j'ai voté contre Marine Le Pen, donc évidemment fatalement pour Emmanuel Macron. Et ben là, maintenant, je dis ça suffit. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes, enfin c'est vraiment l'impression que j'ai, qui font cette démarche du vote barrage. Alors par contre moi parce que j'ai entendu des choses là qui méritent un peu les poils auprès de vos analystes politiques. Moi je refuse de mettre Emmanuel Macron et Marine Le Pen sur le même plan. Pas du tout. C'est une évidence. Je pense qu'Emmanuel Macron n'est pas xénophobe. Marine Le Pen, elle est xénophobe, son parti est un parti raciste. En aucune façon j'ai envie qu'elle soit élue. Mais par contre, là, je m'abstiens parce que j'ai pas envie de voter pour Emmanuel Macron. Je ne me retrouve pas du tout dans son programme.
Qu'est-ce qui vous a hérissé le poil ? Qu'est-ce qui vous a hérissé le poil, Carole ? Qu'est-ce qui vous a hérissé le poil ?
Dans ce qu'on dit les analystes, parce que j'ai l'impression que vous êtes d'accord, en fait.
Oui.
Mais bon, c'est pas grave.
Oui, non, je sais pas, il y a quelqu'un qui a dit, là, juste avant, je sais plus, mais bon, par contre, j'abonde dans le sens de, en effet, vos invités et puis d'auditeurs précédents, c'est-à-dire que moi, maintenant, j'en ai marre qu'on me fasse culpabiliser en me montrant du doigt si je m'abstiens et si je défends l'abstention en disant que si Marine Le Pen est élue, c'est de ma faute. Non. Si Marine Le Pen est élue, c'est les gens qui auront mis un bulletin Marine Le Pen dans l'urne. Au premier tour, au second tour, et pour Zemmour aussi. Et ça, c'est pas moi, franchement. Voilà, donc je voulais juste... j'avoue que moi, la situation, là, depuis les résultats, je suis désespérée. Désespérée de ce peuple français, là, qui est xénophobe, et puis de la démagogie à ne pas justement montrer du doigt les gens parce que pour des raisons sociales, et je peux vous assurer que ma situation, elle n'est pas forcément enviable, et pour autant, je ne dis pas que ce sont les étrangers qui sont fautifs, ou vraiment, ça me dégoûte. Et la dernière chose, en 2002, quand Le Pen a été au deuxième tour, on était tous dans la rue à Paris, une marée humaine contre le Front National. Et là, rien. Depuis 2017, plus rien.
Merci.
Donc c'est à désespérer.
Merci Carole.
Mais pour autant, je m'abstiens.
Merci Carole, on a compris pour votre intervention. Ce que je trouve intéressant, Antoine Bricielle, par exemple, si je regarde le sondage post-premier tour, en fait, parmi ces 22%, on voyait que 34% de ces électeurs allaient du côté d'Emmanuel Macron. On était autour de 30, en fait, à peu près, qui allaient vers Marine Le Pen. Aujourd'hui, si on fait ce même sondage, c'est Ipsos qui dit ça pour nos amis de France Info, on est à 37% pour Emmanuel Macron, donc à la fois un peu plus, mais pas beaucoup plus. On est à 18% pour Marine Le Pen, donc on est descendu, ce qui tend à dire que tous les transfuges, effectivement, n'iront pas. Mais effectivement, ça conforte ce que dit Carole. J'ai l'impression que ça gonfle.
Un sur deux, hein, un sur deux qui reste à la maison.
Et ça gonfle terriblement le chiffre de l'abstention, en fait.
Ce qui est certain, c'est que l'incertitude, justement, elle ira jusqu'au jour de l'élection. En fait, on voyait là, au moment du premier tour, il y a 25% des électeurs qui sont décidés, finalement, soit le jour du vote, soit le week-end du vote. Et il y a fort à parier que la marge étant aussi faible entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron à l'heure actuelle, on a une situation d'incertitude qui perdure jusqu'au moment du second tour.
Et ça va être le cas, effectivement, mais c'est peut-être... Hélas, Frédéric Savicky, hélas pour la démocratie, c'est un fait depuis plusieurs élections, le nombre de gens qui nous disent « moi je décide une fois dans l'isoloir », ce qui dit des choses aussi quand même sur l'état de la démocratie.
Oui, ça dit des choses dans la mesure où vous devez la plupart des électeurs, au moins la moitié des électeurs, et j'inclus là-dedans ceux qui sont abstenus au premier tour, ils sont donc très nombreux, il faut le rappeler, ouais. 26%, considèrent que les deux candidats entre lesquels ils ont à choisir ne sont pas leurs candidats, tout simplement. C'est pas leur premier choix. Ça amènerait à s'interroger sur comment on en arrive là, mais ça serait trop loin. Et donc, évidemment, ils hésitent. Et puis, ils supportent pas quand on essaye de leur forcer la main. Bon, ce que je peux comprendre. Alors, ce qui est simplement, je pense quand même déterminant, c'est qu'il y a pas eu de vraie campagne électorale au cours du premier tour, ce qui fait que les votes se sont quand même fait beaucoup sur des éléments d'utilité ou d'image aussi. Hein. Marine Le Pen a été très discrète, Zemmour a pris toute la lumière, elle est apparue comme beaucoup plus modérée, ce qui fait que ce qu'on peut craindre, c'est que beaucoup d'électeurs face à ce second tour soient quand même assez sous-informés sur la réalité et le contenu du programme. Par exemple, je ne sais pas si votre auditrice sait que Marine Le Pen veut privatiser l'audiovisuel public. Ça veut dire qu'il n'y aura peut-être plus demain de téléphone sonne, ou en tout cas sous une forme peut-être différente, pour ne prendre qu'un exemple. Bon, ça vaudrait le coup. Alors, je sais, voilà. Donc, il me semble qu'effectivement, là, c'est ça qui est particulièrement flippant, si on peut dire, par rapport aux résultats, c'est que ça risque de jouer à très très peu de choses sur une base finalement de connaissance de la réalité des programmes des deux candidats qui est assez ténue. Et on pourrait faire le reproche aussi à Emmanuel Macron d'avoir très peu mis à jour ses propositions et d'avoir attendu le dernier moment pour nous faire part effectivement du contenu de son programme.
Et d'ailleurs, Yael Gauss, c'est vrai qu'il y a eu très peu de campagne au premier tour. En revanche, Emmanuel Macron est parti sur les chapeaux de roue pour le démarrage de cette deuxième campagne.
Oui, beaucoup de terrain, beaucoup de déambulation, de contact, au contact, à portée de baffe, c'est l'objectif pour son équipe de campagne. Mais sur Marine Le Pen, qui maintenant est très visible puisqu'elle est seule avec lui en finale depuis lundi, il y a quasiment un jour un accroc. Il faut quand même les montrer. Dans la campagne, il se passe des choses. Quand hier, elle fait sa conférence de presse sur sa réforme démocratique, le référendum, etc., elle se retrouve dans un incident qui est le fait qu'il n'y a pas certains confrères qui sont acceptés dans la conférence de presse. Ouais. Je pense à ceux de l'émission Quotidien. Et là, grand éclat de rire, je suis chez moi, je fais ce que je veux, je suis chez moi. Là, on retrouve la Marine Le Pen d'avant 2017, c'est-à-dire celle qui ne prenait pas de précautions et qui fait pas... femme d'État, en tout cas, passe dans cette attitude-là.
Et aujourd'hui, sur lequel saute Emmanuel Macron dans la foulée.
Et aujourd'hui, vous avez eu un incident dans les salons Roche à Paris pour la conférence de presse sur sa diplomatie. Quelle serait sa diplomatie avec une militante qui a brandi une photo de Poutine et elle se serrant la main. C'était en 2017 qu'elle est allée lui rendre visite en mars. Cette photo est brandie et aussitôt des gardes du corps de son service de sécurité qui lui sautent dessus sur cette militante et qui la traîne. C'est filmé. Ça fait le tour du monde. Il y avait, je ne sais plus combien de dizaines de journalistes de tous les pays du monde entier qui ont vu cette militante traîner par terre. Voilà, c'est des, j'ai envie de dire, des grosses fautes de campagne. Hein.
Et Emmanuel Macron, dont on sent bien qu'il a une envie d'occuper l'espace, là, on va le voir, enfin on l'entend plus nous parler d'Ukraine, etc., ce qui était pourtant la raison pour laquelle il pouvait pas faire campagne au premier tour. Et là, subitement, Antoine Bristiel, il est partout, il sera en meeting, etc. Il a bien senti lui aussi là-dessus, probablement, le vent du boulet quand même.
Oui, je pense que dans un premier temps, avec la crise ukrainienne, il a cru qu'il allait pouvoir être élu sans faire campagne. Parce qu'en effet, on voyait qu'il y avait une augmentation des intentions de vote de manière assez spectaculaire que l'on constate dans toutes les crises. C'est le fameux ralliement sous le drapeau dans les périodes de crise majeure. Sauf que, ayant certainement un peu trop pris confiance en lui, il a fait cette conférence de presse qui a quand même donné des forts gages à la droite sans en donner à la gauche à côté de ça, et se retrouve maintenant dans une situation où il est au coude à coude avec Marine Le Pen. Donc c'est sûr que quand on voit à côté de ça que ce qui lui est reproché généralement, c'est le fait qu'il ne connaisse pas suffisamment le problème des Français, qu'il soit pas suffisamment à l'écoute, qu'il soit pas capable de répondre aux préoccupations de tous les jours des Français, bah là il essaye de se remettre en quelques jours dans une campagne où il essaye de donner des gages sur ce point-là.
Vous voulez rajouter un mot avant qu'on retourne au standard? Allez-y, Frédéric Savitsky.
Je voudrais souligner l'erreur de campagne à la fois sur la forme et sur le fond d'Emmanuel Macron. Sur la forme, c'est de ne pas avoir fait vraiment campagne. Il a fait comme le général de Gaulle en 1965. Il pensait que naturellement, tout se passerait bien pour lui. Et puis là, sur la faute tactique et sur le fond, c'est quand même la retraite à 65 ans dont 70% des Français ne veulent pas, qui est effectivement socialement très très injuste. Et maintenant, il doit ramer effectivement contre cela, quoi.
Daniel est avec nous. Bonsoir, Daniel.
Bonsoir.
On vous écoute, Daniel.
Et en fait, moi, j'ai voté Mélenchon par stratégie. Mon vote de cœur, ça aurait été un vote Poutou. Et aujourd'hui, je m'interroge d'un vote blanc ou d'une abstention. Et en somme, de voir qui aboutira des deux. Mais surtout, de parier sur un troisième tour législatif avec une majorité d'une gauche républicaine élargie et avec des Verts. De sorte à ce qu'il y ait une cohabitation, il y en a déjà eu, et d'avoir un Premier ministre et un gouvernement de gauche, encore une fois, élargi, et incluant les Verts. Et à moins que, d'ici le second tour, il y ait de vrais engagements. Je ne parle pas de paroles un peu d'enfumage de Macron éloquent, mais de vrais engagements sur les retraites. Mmh. Et pas, oh oui, ben après le second tour, je réunirai un conseil, il y aura des débats, il y aura un référendum, et en quelque chose de très compliqué, incompréhensible au final, quand on se retourne et rétrospectivement, on voit qu'on s'est fait avoir. Mais de vrais engagements là-dessus, sur le code du travail aussi, qui a été cassé pendant qu'il était ministre, sur avec les lois El Khomri, sur rendre des comptes aussi pour les entreprises, le crédit impôt recherche, moi je trouve qu'on s'est fait un petit peu à voir, on a gonflé les dividendes des actionnaires. En fait, de vrais engagements de gauche, avant le second tour, concrets, et qu'il expose à être renversé si d'aventure il ne les tient pas. Sinon, ben, pour moi, ben, peut-être abstention, ou peut-être vote blanc, et compter sur un troisième tour républicain avec une cohabitation.
Merci beaucoup, Daniel. Et je vais vous poser la question à tous les trois, parce que Daniel est le porte-parole de plein de gens en posant cette question.
Retrouvons-nous aux législatives.
Mais c'est ça, l'idée que, au fond, c'est pas si grave parce qu'on va pouvoir créer une forme de cohabitation. Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est un fantasme? Ou est-ce que c'est possible?
C'est tout à fait possible, sauf que c'est démenti par les faits depuis 2002, depuis cette inversion du calendrier. Vous vous souvenez, Chirac, Jospin, qui se mettent d'accord pour que la présidentielle précède les élections législatives. Donc, depuis 2002, à chaque fois, on a eu un effet de souffle du président vainqueur.
Donc
qui
on lui donne une majorité.
Une majorité présidentielle. Soit parce que le camp d'en face perdant de la présidentielle se mobilise moins aux législatives derrière, soit parce que tout simplement, on est cohérent, on a choisi un président, donc on veut lui donner les moyens de faire sa politique dans les semaines qui suivent. Là, il y aura 7 semaines. C'est plus long que d'habitude, entre le deuxième tour et le 12 et 19 juin pour les législatives. Mais c'est un pari assez hasardeux, en tout cas, qui ne s'est pas vérifié depuis 20 ans en France.
Antoine Bristiel, est-ce que c'est une science exacte, ça? L'idée, depuis effectivement qu'on a accordé présidentielle et législative, de donner une majorité obèse, même le plus souvent, immédiatement après l'élection.
Ben, ce qu'on entend généralement, c'est de dire il faut donner sa chance au président qui a été élu en lui conférant une majorité absolue à l'Assemblée. Sauf que là, pour certains citoyens, il peut y avoir l'idée que Macron lui a finalement déjà donné sa chance et qu'il a déjà eu une majorité absolue lors du précédent quinquennat et qu'on n'a pas forcément envie de se retrouver dans la même situation. Et c'est ça qui risque éventuellement d'être compliqué pour lui, parce que il y a quand même une situation qui risque d'être assez disons, intéressante à regarder lors des prochaines législatives.
Un mot là-dessus, Frédéric Savicky.
Je voudrais quand même attirer l'attention de votre auditeur sur le fait que l'état d'émiettement des forces de gauche aujourd'hui et les forces de droite crée aussi une situation très potentiellement favorable pour Marine Le Pen si elle devait être élue, parce qu'il n'est pas sûr effectivement que tous ces gens-là parviennent à faire un front de gauche ou de droite commun,
ça peut être
un électrochoc. Et puis, lorsqu'on regarde en 2017 ce qui avait été envisagé, elle est beaucoup plus discrète là-dessus cette année, ce qu'avait envisagé l'équipe de Marine Le Pen quand elle arriverait au pouvoir, si elle n'avait pas de majorité absolue ou une majorité à l'Assemblée nationale, ils avaient envisagé quelque chose d'assez assez audacieux, qui était de faire une modification par référendum du mode de scrutin, d'instituer une proportionnelle avec une très forte dose de prime majoritaire, qui aurait permis une dissolution de l'Assemblée peut-être là la constitution d'une majorité par le jeu, si vous voulez, du mode de scrutin. Alors là, cette année, ce que nous promet Marine Le Pen, c'est un autre référendum sur la réforme de la constitution visant effectivement à introduire des mécanismes de préférence nationale. Mais je pense que l'outil référendaire, et notamment l'usage de l'article 11 qui a été mis en œuvre par De Gaulle en 62 pour introduire l'élection du président suffrage universel, peut devenir absolument redoutable. C'est-à-dire qu'elle pourra, en quelque sorte, contraindre et fabriquer un Parlement peut-être plus à sa botte et engager un rapport de force avec le Conseil constitutionnel. Et on a vu ce qui s'est passé de ce point de vue-là en Hongrie ou en Pologne. Il n'est pas sûr qu'au bout du compte, ce soit l'État de droit qui en sorte vainqueur.
À suivre, il reste 11 jours avant le deuxième tour de cette élection présidentielle. Merci beaucoup, merci vraiment à tous. Je voudrais vous saluer, Vincent Josse, qui venait d'arriver dans ce studio.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Bonsoir Vincent, racontez-nous cette soirée spéciale, 2 heures à partir de 20h, autour de Michel Bouquet, bien sûr.
20h, 22h, avec des invités, des comédiens, Philippe Torreton qui voue un culte à Michel Bouquet depuis ses études au conservatoire, même s'il n'a pas eu Michel Bouquet pour professeur. C'est un grand pédagogue aussi, Bouquet, qui a eu notamment Muriel Robin, qui nous dira sa passion. Oui, elle le remercie, c'est quelqu'un vraiment qui l'a poussé, qui lui a conseillé de devenir comédienne, de rester comédienne. On aura aussi Laure Adler qui est là, on réécoutera un de ses studios théâtre, on réécoutera un atelier que j'ai consacré en 2014 à Michel Bouquet. Bref, Michel Bouquet par lui-même et par ceux qu'il aime.
À tout à l'heure Vincent, ce sera juste après le flash de 20h.